Bonjour tout le monde, c'est Luc de Ça Roule Radio. Je le sais, quand vous entendez ma voix avant une émission, c'est normalement jamais bon. Et malheureusement, c'est encore le cas cette semaine. On a eu d'autres problèmes d'enregistrement. Mon micro n'a pas été capté comme il faut par l'application. Marc a eu de la misère avec Skype. On a dû passer à travers une autre application. Et l'autre application s'entête toujours à prendre le volume de ma caméra web. Même si j'avais fait les changements dans la dernière fois, cette fois encore, elle a décidé de capturer le son de ma caméra. Et malheureusement, quand moi je parle avec Marc, le son sort super bien parce qu'il sort directement dans mes écouteurs. Donc, j'ai aucun moyen de savoir que l'émission s'est mal enregistrée tant que j'écoute pas l'audio qui a été enregistré. Et malheureusement, cette semaine, il était trop tard. Donc, on a une émission où le son de Marc est très bon, mais le mien est encore assez mauvais. Donc, si le son est quelque chose qui est très, très important pour vous et vous ne pouvez pas endurer un son qui est moins bon, je vous invite à peut-être éviter l'émission de cette semaine puis nous revenir la semaine prochaine parce que je vous garantis que la semaine prochaine, je ne me ferai pas avoir une autre fois. Donc, merci quand même de suivre Ça Roule Radio. Je suis vraiment désolé encore une fois et puis on va se reprendre avec un meilleur son la semaine prochaine. Merci à tout le monde et bon week-end.
Cette nouvelle émission de Ça Roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et encore une fois cette semaine, j'animerai cette merveilleuse émission sur l'automobile avec mon ami, mon collègue, M. Marc Bouchard. Salut Marc.
Salut mon cher.
Ça va?
Il y a des journées qui vont mieux que d'autres.
Ouais, peut-être aujourd'hui va être une meilleure journée qu'hier.
Ah bon, que soit-on-le, mais c'est pas parti pour ça.
On va voir avec le sujet qu'on va toucher dans quelques secondes, peut-être on va peut-être se faire ramasser un petit peu.
Ouais, une fois de plus. De toute façon, au stade où je suis rendu, moi, j'ai les épaules assez larges, il n'y a pas de problème. Je veux juste en profiter, avant d'aller plus loin, si tu permets, pour nous excuser à propos de la semaine dernière. Caroline, hein? Il y a des drôles de sons dans mon ordinateur ce matin, je suis désolé. Donc, je dois m'excuser à propos de la semaine dernière. On n'a pas fait d'émission, malheureusement, on était tous les deux coincés, toi et moi. Alors, malheureusement, on a dû sauter Ça Roule pour une semaine. On vous a pas oublié, on vous aime encore, mais que voulez-vous, des fois ça arrive.
Ouais, c'est ça. Parfois, il y a des choses qui fait que on a tous les deux. Moi, j'ai un travail autre. Marc, t'as des voyages, t'as plein de choses. Des fois, t'as des événements. Puis des fois, c'est difficile se trouver une heure précise pour être capable de faire ça. Donc, la semaine passée, ça a juste pas donné du tout. Et puis, lundi, c'était congé, puis moi, lundi, c'était passer du temps en famille comme la fin de semaine. Donc, j'ai pas eu le temps de faire d'émission. Donc, on se reprend cette semaine. On espère que vous allez nous pardonner et puis que vous allez quand même aimer l'émission de cette semaine. Marc, il y a eu une annonce, finalement, quelque chose qu'on attendait depuis un bout de temps. En tout cas, moi, j'attendais depuis un bout de temps parce que je suis propriétaire d'une Nissan Leaf 2013 et je regarde tranquillement pour remplacer mon vieux Ford Escape qui commence à péter et à roter un petit peu des fois, et puis pare-brise brisé, puis ça commence à rouiller. Je sais pas, je pense que Ford n'a jamais accepté le fait que ses Escapes d'ancienne génération rouillaient à profusion dans les ailes là, des autos, mais tout le monde que je connais a des problèmes avec ça, puis Ford semble pas vouloir accepter que c'est un problème, là, mais c'est un problème. Donc, si vous avez un Ford Escape de la même année que moi, c'est un 2010, quelque chose 2011 en descendant, là. Si ça roule dans les ailes, faites-vous en pas avec ça, ça a l'air que c'est un problème normal. Mais c'est ça, donc je pense à le remplacer d'ici peut-être un an ou deux, s'il me tape encore justement ça. Puis j'attendais le lancement de la nouvelle Leaf. Et puis il y a des belles choses qui ont été montrées dans la nouvelle Leaf, mais en tant que propriétaire, je suis un peu déçu de l'autonomie totale de la voiture. C'est juste 241 km. Quand les autres commencent à faire plus, moi, je suis un peu déçu.
Moi, je suis bien déçu. En tant que simple amateur, je suis extrêmement déçu. Je me suis d'ailleurs permis de le dire sur mon blog. Mm-hmm. On va y revenir un peu tout à l'heure. Mais écoutez, j'ai jamais vu ça, moi, quelqu'un qui est premier dans une course, qui, à la deuxième course, décide de partir quatrième. Et quand je dis quatrième, c'est pas une façon de parler, là. Imaginez, il y a déjà la Chevrolet Bolt qui est là pour 383 km d'autonomie, même plus si on conduit de façon plus que raisonnable.
Oh oui, j'aurais pu faire plus à peu près 450 quand je l'ai vu.
C'est ça. Il y a la Tesla Model 3 qui va finir par arriver, dont il y a au moins quelques modèles qui ont été vus, pas chez nous, mais quelque part. Donc, tu sais, mais on sait que ça va finir par exister. C'est moins de la science-fiction que ça l'était. Il y a une Hyundai Ioniq qui est déjà bonne pour 200 km ou à peu près.
Ouais, un peu plus même, ouais.
C'est ça. Et qui annonce dès l'an prochain la venue d'une batterie plus grosse supplémentaire qui va permettre d'atteindre les 300 quelques kilomètres.
Ouais.
OK? Fait, déjà, là, on est rendu à un niveau qui est vraiment beaucoup plus élevé. Et là, t'as Nissan qui est toute fière de nous dire qu'il passe de 170 à 240.
Ouais. Temporairement, par exemple.
Oui, mais c'est quand même eux autres qui étaient les leaders. Là. Ils ont vendu 280 000 unités de la Leaf. Ils étaient numéro un. Ils menaient tout le monde. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait le choix d'aller vers un choix technologique qu'ils nous ont dit. Ben, qu'ils ont dit à d'autres mondes, là, parce que j'étais pas là, je l'avoue. Je l'ai pas essayé non plus. Mais ce qu'ils ont dit, c'est nous, on préfère mettre plus d'équipement. Donc, on aura le Pro Pilot Assist.
Ouais.
Un système qui permet, avec des capteurs, des caméras, des lasers, de garder la voiture dans une voie et de prendre des virages et même de freiner complètement sans intervention du conducteur.
OK. Donc, théoriquement...
Ça, c'était ma bonne main d'applaudissement pour une technologie qu'on retrouve déjà, de toute façon, dans d'autres véhicules.
Ouais, la seule chose, c'est que dans les autres véhicules à prix raisonnable, si t'as le malheur d'enlever tes mains sur le volant, puis tu prends une courbe, la voiture va dire « Hey, le gros, les mains sur le volant. »
T'as-tu déjà pris l'Infiniti Q50?
Oui.
Ben moi, avec le Adaptative Steering, là, qui est, en passant, Infiniti, qui est une division de Nissan.
Oh, oui, oui.
Hein, on va juste dire ça en rappelant en passage. J'ai fait 15 km sur la 401, les deux mains dans les airs, les deux pieds sur le plancher, avec un régulateur de vitesse intelligent, puis il y a le Adaptative Steering, la direction adaptative.
Oh, mais sur la 401, avec un 2x4 barré tout droit, c'est correct.
Ouais, non, mais il y avait quand même une coupe de courbe, là, on va s'entendre, là.
Ouais.
Puis non, elle s'est pas arrêtée au Tim Hortons. Mais, ceci étant dit, ça existait déjà. Si on s'entend pour dire que oui, c'est une évolution, là.
Oh, ouais.
Mais je pense pas que personne ait attendu en ligne chez un dealer Nissan pour avoir une voiture qui va garder sa ligne droite tout seul.
Non.
OK? Ouais. Ça, je pense que c'est, tu sais, dans la série, c'est l'innovation que tout le monde attendait, là. Il y a un hashtag qui existe, c'est hashtag not. Je pense qu'on est pas mal là-dedans, tu sais. Même chose pour l'autre, la E-pédale. D'abord, le nom est absolument effroyable.
Ben, c'est pas pire que e-tron pour la les autos électrifiées chez Audi.
Ce qui est quand même tout à fait le cas, c'est les pareils. Mais en tout cas, ceci étant dit, c'est un pédalier intelligent qui fait que tu peux conduire d'une seule pédale. Donc, quand tu accélères, ça part. Quand tu lèves le pied, ça freine. Comme si tu utilisais la pédale de frein, puis ça récupère l'énergie.
Ouais, ce que la Bolt fait déjà.
Ils sont encore deuxième.
Ouais,
alors, honnêtement, on va arrêter. Le seul bon point, en fait, c'est qu'elle est moins dispendieuse parce qu'elle a moins de batterie.
Ouais.
Fait qu'on est content. Dans la version de base, sans le transport préparation. Avec transport et préparation, on parle d'à peu près 8 000 $ de différence.
OK, ouais.
OK, avec une Bolt.
Avec une Bolt, ouais.
Qui te donne, si j'ai bien compté, là, elle se vend à, c'est quoi, attends, c'est 62 % du prix, mais elle offre 42 % des capacités.
Ouais.
Genre, là.
Ouais, ouais.
Quelque chose comme ça. Ouais. Fait qu'à un moment donné, là, je veux dire, je pense que Nissan ont manqué une belle occasion de se poser comme un leader dans ce monde-là. Ils ont préféré jouer la carte safe, ce qui est correct, mais ce qui ne m'empêche pas d'avoir une déception. Pourquoi? Et là, c'est là que je vais me faire assassiner par les 3-4 verts foncés qui essaient de suivre mon blog. Que le problème, c'est que les gens ordinaires, qui sont pas déjà convaincus de la voiture électrique, là, et là, mettez-vous dans la tête là, que vous êtes pas sûr pantoute de vouloir une voiture électrique, ce que vous voulez voir dans votre dash, c'est 300 km d'autonomie.
Ouais,
c'est pas 240. C'est pas 240. C'est pas moi qui le dis. Il y a des sondages qui ont été faits partout, aux États-Unis, au Canada. J'en ai publié un ce matin qui a été fait aux États-Unis. Et évidemment, la première réponse que j'ai eue, c'est oui, mais il a été fait aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même la même chose chez nous. 300 km, c'est le nœud de la question. C'est là qu'il va commencer à y avoir une certaine adoption spontanée de la part des gens. Parce qu'il faut se rappeler que les gens, ils savent qu'ils font 70 km par jour, là. Ils sont pas caves. Mais ça les stresse de voir baisser ça. De la même manière que quand ta lumière à essence devient jaune, tu te garoches à la première station de service voulue, même si tu sais que tu es encore bon pour 75 km, tu y vas parce que tu veux pas avoir de problème. Alors, à un moment donné, il faut, je pense, être conscient de ça, être conscient que les gens ont besoin d'être rassurés et que c'est en leur donnant une autonomie à 300 km qu'on va les rassurer et qu'on va favoriser une adoption massive. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient convaincre ceux qui sont déjà convaincus, puis on se retrouve avec un marché qui ne se développera pas parce que le prix est pas super plus abordable qu'il ne l'était dans le passé et l'autonomie est pas supérieure à part deux, trois technologies. Alors ça, pour moi, de la part de Nissan, c'est décevant. Attention, je ne dis pas que la voiture est pas bonne. Je ne dis pas qu'elle se conduit pas bien. Je ne l'ai pas essayé. Je ne dis pas qu'elle est pas mal plus belle qu'elle l'était. Excuse-moi pour ta vieille, Luc. Là,
mais... Oh non, c'est vrai.
La nouvelle est pas mal plus belle qu'elle l'était.
Ma vieille t'a envoyé prévenir.
C'est ça. Mais quand même, je pense que ce qu'on fait, on vient de manquer une belle occasion d'aller chercher des nouveaux amis. Puis vraiment, c'est décevant. Tout le monde s'attendait à au moins 300 km. Je comprends. Puis l'autre élément, en fait, c'est que la 300 km va être disponible en option en 2019.
Ouais. Bon, on va parler de presque 400 km. On parle d'une batterie de 60 kWh. Donc, on va venir l'autonomie de la boîte. Mais ouais,
oui. On verra rendu là, hein, ouais, parce que ouais. Ça demeure une option dans 2 ans.
Ouais.
Tu sais? Fait que d'ici ce temps-là, ben, il y a Volkswagen qui va arriver avec des nouveaux véhicules. Il y a Hyundai qui va arriver avec des nouveaux véhicules. Il y a Kia. Il y a même Mazda. Il y a même Subaru qui dit qu'à partir de 2019, ils vont faire des véhicules électriques. Alors, je pense que Nissan vient de manquer une belle opportunité de se positionner comme un leader, comme un élément de changement dans ce monde-là, qui en a bien besoin. Les gens, c'est pas moi qui leur dis qu'ils ont besoin de 300 km. Ils sont assez grands pour le penser tout seul. Et je pense que là, vraiment, c'est cette attitude-là qu'il faut changer. Et il faut arrêter de dire que c'est les chroniqueurs qui sont les méchants, puis que nous autres, on devrait pas parler contre ces inquiétudes-là, parce que vous savez, vous insécurisez les gens. Ben oui, c'est ma job. C'est ma job de dire au monde c'est quoi la réalité. C'est ma job de dire au monde que le char, il va faire 240 km quand il va faire beau, puis qu'à moins 20, ça se peut qu'il fasse moins. Comme c'est ma job de dire que le gros V8, il coûte 18 litres au centre en essence, puis que même s'il est le fun à conduire, il va falloir que tu payes pour, c'est exactement ma job dans les deux cas.
Ouais.
Fait qu'on va arrêter de faire porter aux chroniqueurs le blâme de ça. Je pense que le monde de la voiture électrique fait ça très bien tout seul, insécuriser tout le monde. On vient de le voir avec Nissan qui donne pas la satisfaction. On a le circuit électrique qui va maintenant charger 2 piastres à quelqu'un qui a pas sa carte sur lui s'il veut activer une borne. Bravo l'accès facile à tout le monde et l'innovation pour les nouveaux membres. Ouais, bref, je pense que le monde des voitures électriques est assez grand pour se tirer dans le pied lui-même avec un 12. Il n'y a pas besoin de nous autres, on a juste à rappeler la réalité.
Ouais, mais je pense que Nissan aurait réglé la majorité des problèmes et des critiques s'il avait sorti les 2 options de batterie tout de suite.
Exactement. Puis c'est exactement ça.
Ouais. Si je te disais, là, OK, je t'offre 2 choix. Tu peux, dans ta Leaf, tu peux avoir une batterie 40 kWh qui va te donner 241 km, ou je t'offre tout de suite une 60 kWh qui va te permettre d'avoir, mettons, 400 km, 385 km, puis je te charge, tu sais, tant de plus, 5000 de plus, mettons, je sais pas, là.
Et à ce moment-là, j'aurais probablement chialé que c'était un peu cher, mais en même temps, au moins, l'option, elle est là. De la même manière que la Bolt le propose, on le sait tous que l'intérieur de la Bolt, c'est un peu ordinaire.
Ouais.
C'est pas super confortable,
non.
Mais au moins, elle le propose. Et ce que les gens, les mordus de voitures électriques comprennent pas, là, c'est que les gens qui achètent une auto, ils l'achètent pas pour le rationnel. Ils l'achètent parce que ils ont un élément psychologique à l'achat de leur véhicule. Mm-hmm. Tant que tu les rassureras pas. Et actuellement, avoir 240 km, ça exige des changements de mentalité profonds, des changements de comportement profonds, et les gens ne sont pas prêts à les faire si on ne les aide pas, et c'est pas en arrivant avec des options comme celle-là qu'on les aide vraiment.
C'est ça.
Ceci étant dit, ouais. Je dois dire que la nouvelle Leaf, elle est super belle, mm-hmm. Elle a un intérieur qui a l'air absolument joli, et semble-t-il qu'elle se conduit très bien. Alors, ça n'enlève rien aux qualités de la voiture, mais je pense que du point de vue stratégique, Nissan s'est tiré dans le pied, et malheureusement, ils n'auront pas de nouveaux amis avec ça.
Ouais, mais chose intéressante, il y a sorti quelques rumeurs de la conférence de Nissan, comme quoi qu'il y aurait bientôt, ben c'est Inside EV qui a sorti ça, comme quoi qu'il y aurait bientôt une berline et un VUS construite construit sur la même plateforme que la Ligue, donc 100% électrique. On parle d'un VUS qui serait un petit peu plus gros qu'un Qashqai.
Oui.
Pour Inside EV, ça s'appelle un Road. Il y aurait...
Oh, c'est un Road Sport.
Ouais, c'est ça. Ouais, mais non, mais c'est parce qu'Inside EV dit un peu plus gros qu'un Nissan Qashqai. C'est parce que si tu montes plus gros qu'un Qashqai, t'es assis dans un Road.
Ouais, mais parce que eux autres, ils savent pas ce que c'est, là, tu sais.
Ouais, c'est ça. Puis une berline aussi, donc peut-être bâtie comme une Sentra, mais 100% électrique. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va donner des options. Si Nissan, par exemple, peut arriver avec un VUS qui a 240-300 km d'autonomie, ça serait intéressant. Ils seraient les premiers sur le marché d'offrir quelque chose de ce grosseur-là. Donc, ça pourrait être intéressant.
Et je serais le premier à les applaudir, là.
Ouais,
je trouve que l'offre actuelle, elle est juste comme pas, elle correspond juste pas à ce qu'on a besoin.
Ouais, c'est un peu léger, mais là, on parle que ça serait peut-être présenté le mois prochain. Il y a le salon de Tokyo qui s'en vient bientôt.
Fin novembre.
Ça serait présenté au salon de Tokyo, ces véhicules-là. Donc, on verra un peu plus tard.
Effectivement. Je pense pas qu'ils vont m'inviter avec ce que je viens de te dire, mais bon, c'est une autre affaire.
Je penserais pas moi non plus sur un donc Marc, on va aller respirer dans un petit sac brun et puis on va faire une pause puis on va revenir avec nos essais de la semaine. Alors nous sommes de retour et Marc, on va partir cette semaine, on va parler de voitures à gaz. On a essayé chacun deux modèles de voitures sport, ce qui est quand même rare. Toi, t'as été au volant de la Audi TTS.
Oui monsieur, la Audi TTS, il faut que je te dise que la Audi TT, je la trouve très belle. Okay. C'est une voiture que je trouve belle depuis le début. Les mauvaises langues vont dire c'est parce qu'elle me ressemble à une petite pin ronde, mais ceci étant dit, c'est pas complètement faux. Sauf qu'en même temps, on a vraiment amélioré considérablement ce véhicule-là au cours des dernières années, en termes de silhouette notamment. On a enlevé justement les rondeurs excessives qu'il y avait auparavant et on lui a mis des éléments, entre autres la ceinture de caisse qui est beaucoup mieux définie. Là, il y a vraiment une ligne de chaque côté qui est beaucoup plus pointue. On le sait, chez Audi, on mise énormément aussi sur les phares. Alors, les phares avant et les phares arrière qui sont Adèle, tout le monde s'en doute, mais qui ont vraiment une signature optique particulière. C'est vraiment très beau, c'est vraiment très joli. À l'intérieur, ben écoute, c'est une finition Audi. Le tableau de bord est intéressant parce qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle le cockpit virtuel.
Okay.
Le cockpit virtuel, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'écran dans le milieu de la planche de bord. OK? L'écran est uniquement devant le conducteur. Okay. Il fait à peu près 12 pouces, peut-être 13 pouces de long. Là, j'ai pas la donnée devant moi. Et on peut le configurer à peu près comme on veut. Donc, on peut avoir un gros écran qui va nous donner, par exemple, un gros cadran de vitesse devant nous avec des petites informations de chaque côté. Ou on peut opter pour deux petits cadrans, par exemple, à gauche le contour, à droite la vitesse. Et au milieu, tout l'ensemble est occupé par la carte du GPS. Alors, ça fait vraiment un élément magnifique. C'est très, très beau. C'est de grande définition. Et c'est agréable à consulter, vraiment, vraiment, vraiment. Là où il y a un bémol, cependant, c'est que c'est pas nécessairement une ergonomie qui est facile. Okay. C'est-à-dire que il faut le faire avec ce qu'on appelle le MMI. Le MMI, c'est le Audi Multimédia System, là. C'est l'espèce de molette qu'il y a dans le milieu. Ça, pour naviguer, c'est pas simple. Tu passes ton temps à chercher dans les menus, c'est compliqué, il y a des boutons. Quand je l'ai essayé, on l'a amené pour l'émission Saroule.tv, entre autres, et ma collègue disait j'ai besoin de Trois-Rivières à Québec pour changer de poste de radio deux fois. Là, c'est vraiment compliqué à aller suivre les sous-menus, savoir où on s'en va, comment ça marche. C'est pas si simple que ça. Ça prend un certain temps à s'habituer.
Il y a quand même un élément tactile du tout.
Ah, non, pas vraiment.
Okay.
Alors, c'est un peu fatigant. Le côté amusant dont je me sers jamais, mais que je trouve toujours le fun, c'est que la fameuse molette, qui est assez grosse au centre, permet à un écran tactile sur le dessus. Donc, tu peux entrer tes données en les écrivant du bout du doigt.
OK.
Alors, tu vas créer les 1, 1, 2, 3, 4, là. Donc, ça te permet d'aller chercher les adresses et tout de cette façon-là. Okay. Ça, c'est le volet ergonomie, si tu veux. C'est un peu complexe, mais c'est magnifique. Je trouve ça très, très beau. Évidemment, on n'achète pas une Audi TT pour le volet ergonomie seulement. On l'achète aussi pour la conduite. Moi, j'avais la TTS.
Bon, pour évidemment, pour faire son frais un peu.
Oui, surtout que la mienne était jaune. On appelle ça jaune Vegas.
Okay.
Moi, j'appelle ça jaune autobus scolaire.
C'était tout le reflet que je voyais dans les nuages aussi.
Okay. Écoute, c'est vraiment incroyable. Elle est d'un jaune fascinant. Mais elle est belle, mais tu sais, c'est comme pas discret du tout. Là.
Ouais,
évidemment, une TTS, tu l'auras compris, c'est une des versions de performance. Tu as la version TT de base et tu as la RS qui, elle, est la plus spectaculaire. Dans le cas de la TTS, on a le même moteur 4 cylindres 2 litres que la version de base. Turbo compressé, un petit peu tweaké, on arrive avec 292 chevaux. Boîte automatique 6 rapports qui est vraiment, vraiment, vraiment agréable, qui est vraiment le fun. J'ai beaucoup aimé la façon dont elle se conduit. Cependant, et tu me connais, je suis fatiguant, je trouve qu'on ressent une certaine lourdeur dans cette voiture-là quand on la conduit.
Okay.
J'ai été étonné. Elle tient la route, OK? Puis en plus, elle a des suspensions magnétiques, là. Tu peux les ajuster en fonction de l'usage de... t'as un drive select, là. T'as trois modes de conduite, sport, confort, puis dynamique, là. Elle tient la route. Puis écoute, je l'ai essayé sur un circuit, sur une route qui était fermée pour notre tournage. Puis honnêtement, elle tient très bien la route. Mais on a une sensation de lourdeur quand on conduit qui est pas aussi agréable que ce à quoi je me serais attendu. Et en fait, qui me fait dire que finalement, j'avais peut-être pas besoin de la TTS, que j'aurais peut-être pu me contenter de la TT de base, puis ça aurait été vraiment super génial.
Mais le problème de poids, c'est juste pour la TTS. La TT ne souffre pas du même problème, parce qu'en théorie, c'est la même voiture avec un moteur peut-être un peu plus puissant, c'est tout.
Oui, la TT souffre probablement du même problème, mais j'aurais pas payé 10 000 piastres de plus pour une performance que je ressens pas tant que ça, finalement.
OK.
Tu sais? Honnêtement, moi, j'achèterais pas. Tant qu'à m'acheter une voiture de performance, j'irais acheter la RS.
Ouais.
Oui, tu vas me dire, elle est pas mal plus chère, mais en même temps, là, tu aurais quelque chose d'assez féroce. Là,
ouais.
Je trouve que la TTS, c'est un compromis qui est peut-être pas nécessaire, finalement.
Okay.
Mais écoute, ça veut pas dire que je l'ai pas aimé. Là, je l'aime de tout mon cœur, ça, c'est pas un problème. Sauf que mon fils ne me parle plus.
OK.
Parce que j'ai essayé de les asseoir, lui et sa blonde, sur le siège arrière.
Ah, parce qu'il y a des sièges arrière là-dedans.
Okay. Ouais. Oui, okay. Et ouais. Ça fait deux jours qu'il essaie de sortir.
Il est encore là. Il faut qu'il sorte avant lundi parce que tu vas retourner
l'auto. Ah non, mais écoute, c'est vraiment ridicule. Là. Je dis ça à la blague, là, mais il y a effectivement des sièges arrière, mais c'est vraiment un accès qui est absolument inutile. Oublie ça, là, ça ne sert absolument à rien. Là. Fait que, bref, c'est une très, très belle voiture qui est super le fun, qui est très agréable. Moi, j'opterais pour la version de base parce que je ne ressens pas la nécessité d'aller chercher les suspensions plus raides, parce que même en version confort, sont assez raides, je dois le dire. Uh-huh. Et je ne ressens pas non plus la nécessité d'aller chercher les quelques chevaux de plus. Mais c'est une magnifique voiture d'un jaune très pétant et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Toi, mon cher, tu as fait dans le sport aussi cette semaine.
Oui, j'ai fait dans la voiture sport. Ben, il y a quelques semaines, j'ai été au volant de la Fiat 124 Spider dans sa version Abarth. Bon, on se cachera pas, là, la Fiat 124 Spider, c'est une Mazda MX-5, donc une Miata, qui a été redessinée, nouvelle carrosserie, tout ça, motorisation par Fiat, mais ça reste construit sur la plateforme de la Mazda MX-5. Et c'est vraiment une bénédiction pour cette voiture-là. Franchement, là, personnellement, j'ai conduit la MX-5 l'année passée. J'ai aimé mieux la Fiat 124 côté design, côté allure, côté motorisation. Il y a pas grand-chose de différence. À Abarth, on parle pas d'une voiture qui a 50 chevaux de plus que la version 124 Spider ordinaire. Là, on parle de 5 chevaux de différence à peu près. Mais on parle déjà de 5 chevaux de différence de la Fiat 124 ordinaire à la Mazda MX-5. Fait que la Mazda MX-5 a 155 chevaux à peu près. La Fiat Spider ordinaire, la 124, a 160, puis elle a 164 chevaux. Fait qu'on parle de 4 chevaux de plus. C'est vraiment des chevaux qui ont été gagnés par un échappement un peu meilleur et des choses comme ça. Là. Mais il n'y a rien de... Il n'y a pas de plus gros turbo ou de choses comme ça. C'est un petit 4 cylindres turbo de 1.4 litres que dans cette voiture-là. Comme je disais, ça développe 164 chevaux. Mais c'est juste assez pour que la voiture soit un petit peu plus vivante que la MX-5. Puis le son que Fiat est capable d'aller chercher avec cet échappement-là est assez incroyable. C'est quelque chose qui m'avait...
Oui, mais c'est pas le même moteur non plus. Là. On parle du multi-air.
C'est ça. C'est pas le même moteur que chez Mazda. Mazda a sa motorisation, Fiat a sa motorisation. Mais
c'est
un véhicule qui, avec un peu plus de chevaux, puis le son qui sort de là, J'aimais beaucoup le son de la Fiat 500 Abarth que j'avais eu il y a quelques années. Je trouvais que c'était un son un peu de fond de gorge, là, un grognement. Là. Je trouvais que c'était très intéressant. Puis la 124 a à peu près ce son-là aussi. Donc, quand on la part, quand on accélère, on a un son un peu plus sportif que ce qu'une MX-5 va nous offrir. Fait que je trouvais ça intéressant. À l'intérieur, ben, c'est une Mazda MX-5. C'est des sièges de Mazda MX-5, c'est un volant de Mazda MX-5, c'est le système multimédia de Mazda. Ça m'a un peu déçu. J'aurais aimé avoir le U-Connect de Chrysler mélangé peut-être avec l'écran et tout ça, mais on a exactement le même système que dans une MX-5, c'est la molette.
Oh non, c'est pareil. Mais tout, il n'y a rien qui a été changé à l'intérieur, et non, ça, c'est non, clair. Non,
c'est pareil. La même bosse dans le plancher côté conducteur, qui est un peu tannant pour le conducteur. Le conducteur est obligé de s'asseoir un petit peu vers la droite. T'sais, il peut pas mettre ses jambes droites, vraiment, pour qu'il se tasse un petit peu les jambes vers la portière, parce que il y a une grosse bosse dans le plancher, c'est vraiment pour la motorisation, quelque chose comme ça. Mais pour le reste, c'est un véhicule qui est très, très intéressant. Les accélérations, c'est pas hyper puissant, mais les accélérations sont satisfaisantes. J'avais une boîte 6 vitesses manuelle. Donc, ça a été intéressant à conduire. Ça a été très, très quand même réceptif comme voiture. Je suis allé faire une couple de tours juste pour... C'est le genre de voiture que tu veux juste aller conduire. C'est le genre de voiture que t'as pas nulle part à aller nécessairement, mais que tu vas dire, bon, je vais aller faire un tour d'auto. Tu vas t'asseoir dedans, tu vas aller partir, tu vas aller faire un petit 15 minutes, un petit tour d'une petite route sinueuse, puis tu vas revenir, puis tu vas être satisfait. C'est le genre de voiture, tu sais, j'aime mon travail, là, mais tu sais, aller de chez nous au travail le matin, c'était comme juste un plaisir. Parce que tu disais, je vais conduire cette belle petite voiture-là, puis je vais avoir du plaisir, le toit baissé, tu sais, de la musique, les cheveux dans le vent, parce que j'ai encore des cheveux, tu sais, puis tu sais, c'était le fun à conduire. Fait, j'ai trouvé que la 124 Spyder, c'était comme, pour moi, c'est très, très personnel. Il y a des gens qui vont me dire, ah, j'aime plus la MX-5. Mais c'est pour moi juste le un petit peu plus que ce qui manquait à la MX-5. Puis j'aime mieux, tu sais, la nouvelle MX-5 est super belle. Mais pour moi, l'avant de la Fiat 124, ça fait un peu plus roadster européen que la MX-5.
Ça donne bien, ça en est un.
Moi, ouais, c'est ça, tu sais. Mais ça a l'air plus de ça, tandis que la MX-5, ça a plus l'air d'une petite voiture de course avec plus, tu sais, profilée en avant, plus pointue. Puis je trouve la MX-5 en arrière, on dirait qu'il manque quelque chose. La Fiat, on dirait que c'est un petit peu mieux réussi, tu sais. Mais c'est vraiment très, très personnel. C'est juste des goûts pis c'est de l'esthétique. Mais pour le reste, ça se conduit à peu près pareil. J'avais un peu peur que, en changeant certaines choses, en grossissant un peu la voiture, qu'on perde peut-être ce dynamisme, puis cette espèce de perfection dans la distribution de poids et tout ça. Puis j'ai pas trouvé qu'il y avait une lourdeur ou rien dans la voiture. Je trouvais que ça se conduisait très bien. C'est une voiture qui attire les regards. J'ai un gars au travail qui conduisait, lui il conduit une S2000, puis il travaille pas avec moi, il travaille à la compagnie à côté. Puis à un moment donné, je m'en allais à la voiture, puis il est venu faire le tour pour venir la voir, parce que ça l'a attiré son œil, parce qu'on en voit moins que des MX-5 sur la route.
Mais c'est clair.
Puis le gars conduit une S2000, puis il dit, ah, c'est vraiment belle. Il dit, ouais, mais regarde, parlant de belle voiture, puis c'est une S2000, là, tu sais. Mais c'est ça, fait que ça attire les regards. Il y a beaucoup de gens qui se sont virés pour la regarder quand on passait. J'ai eu des petits
temps. Oui, c'était pas toi, là.
Non, c'est pas pour moi, c'est pour la voiture. C'est pour la voiture. J'aurais pu fermer le toit, puis ça aurait fait la même affaire. Là. Mais c'est une voiture qui est intéressante. Un petit peu moins intéressante à conduire avec le toit fermé, par exemple. C'est beaucoup, là, ces voitures-là, c'est vraiment un coup de toit ouvert. On a une impression de dégagement et tout ça. Mais quand le toit est fermé, c'est un petit peu plus serré. Mais ça reste quand même correct, là. C'est une voiture que j'ai beaucoup aimée. De base, la Fiat 500 Abarth est 37 995 $. Si on va avec une version normale, on est plus proche, je pense que c'est 30 de base. Mais la version que j'avais entre les mains, c'était 48 395 avec la peinture spéciale, les options et tout ça, là. J'ai 5 500 $ d'équipement, le GPS et tout ça, technologie. Puis j'ai 2 995 pour une ligne de course dessinée à la main. C'est 3 000 $. Donc, c'est ça. Plus
dessiné. Oui, mais c'est dessiné à la main.
Mais c'est dessiné à la main. Mais c'est une voiture qui est vraiment magnifique, par exemple. Faut que je donne ça à Fiat, qui ont fait un travail merveilleux avec cette voiture-là. Elle est vraiment jolie. On riait tout un petit peu quand elle a été présentée au Salon de Montréal. Ben, regarde regarde la MX-5 dans une robe un peu différente, mais je trouve qu'ils ont fait un très beau travail, la Fiat. Mais ils ont fait un très, très, très beau travail. Si c'est un véhicule qui vous intéresse, allez le voir. Ça fait un petit peu différent de la gamme complète de MX-5 qu'on peut voir en s'en allant d'un point A à un point B. J'en ai vu une l'autre jour, une noire sur la route. Je pensais hier sur la route, puis j'ai resté surpris parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Non, effectivement.
Donc, c'est cela. J'ai bien aimé.
J'ai juste oublié de préciser un petit détail.
Oui.
Ma Audi valait quand même 63 000 $.
Ouais, c'est ça. Et ça doit, faut que je la fasse. Ça doit têter du gars. Hey, j'ai resté surpris avec la 124 Spyder. J'ai fini à 7 litres au 5
km. Ouais, l'autre, j'étais plus aux alentours de 10, ouais, pour être franc.
7 litres au 5, j'ai pas fait attention. C'est une voiture qui, si vous la conduisez normalement, là, c'est très, très sobre. Si vous la poussez un peu plus, ça va consommer un peu plus, mais 7 litres au 100, je trouvais ça, quand même intéressant. J'avais une Yaris entre les mains la semaine passée et je vais en parler sur une émission, mais j'ai fait la même chose avec une Yaris.
Ouais. Oui, mais Yaris, tu sais. Va te chercher une Corolla, c'est plus économique. Là.
On en reparlera sur la prochaine émission.
Oui, donc, ça m'a fait du bien.
Ouais. Donc, Marc, on va faire une petite pause. On va revenir avec d'autres essais que tu as fait. Tu as conduit la toute nouvelle Kia Rio. Qui va être lancé incessamment, peut-être arrivé chez les concessionnaires, mais c'est vraiment récent. Et puis, tu as aussi essayé un tracteur.
Oui, monsieur.
Joe Lefamme. Donc, on fait une pause, mais oui. Alors, nous sommes de retour. Et Marc, tu as conduit deux choses totalement différentes la semaine dernière. Quelque chose qui roule sur la route, quelque chose qui roule dans un champ. Commence par quelque chose qui roule sur la route. Tu as été assez chanceux pour être invité par Kia Canada pour aller essayer la toute nouvelle Kia Rio, une voiture que Kia doit quand même être assez intéressée à ce que ça se vende bien au Québec.
Ben, en fait, il faut savoir que déjà, 42%, c'est 32 ou 42% des ventes de la Kia Rio se font au Québec.
Ouais, on aime ça. Alors, les voitures. Et Kia est très fort au Québec. Kia est le plus gros marché au Canada pour... Le Québec
est le plus gros marché au Canada pour Kia. Oui, t'as bien raison.
Ça a mal sorti, mais c'est ça.
Ouais, c'est ça. Non, on a compris. Ouais. Bref. Ouais. En tout cas, on a essayé de comprendre. Alors, on est allé effectivement dans la région de Québec pour essayer la Kia Rio, la toute nouvelle Kia Rio, qui est une magnifique voiture. Hein. On l'avait présentée l'année passée dans le cadre du Salon de Paris. C'est une auto qui est complètement redessinée. Complètement nouvelle plateforme, nouvelle structure plus rigide et tout et tout. Mm-hmm. Celle qu'on nous a présentée, celle qu'on a essayée, nous, c'est la Kia Rio 5.
Okay.
Donc, comme le nom l'indique, c'est la 5 portes.
Ouais.
C'est vraiment c'est la partie la plus agréable de cette voiture-là, c'est qu'on a vraiment créé quelque chose de cool au niveau du look. Moi, j'aime beaucoup cette petite voiture-là. Elle est très belle.
Ouais.
Écoute, sous le capot, on s'entend pour dire que c'est pas quelque chose de très très édifiant. On arrive avec un moteur quand même qui est un moteur 4 cylindres de 130 chevaux. C'est le plus performant dans la catégorie, c'est-à-dire que c'est le plus puissant de cette catégorie-là pour le moment.
ouais.
Et c'est... Ouais, parce qu'on ne sait jamais, là.
Ouais.
Mais ce qui est quand même surprenant, en fait, c'est que ce qu'on nous disait, c'est que les gens qui achètent une Kia Rio, ou en tout cas qui vont magasiner une Kia Rio, sont souvent en concurrence avec des compacts plutôt que des sous-compacts.
OK, quelque chose d'une taille plus grosse.
Exactement. Ouais. On est vraiment dans un marché assez particulier parce qu'on est vraiment en dehors, si tu veux, de ce format-là. Tu sais, on va pas magasiner une Kia Rio contre une Nissan Micra, par exemple.
Non, les gens vont souvent rentrer chez Kia, puis ils vont même regarder une Forte, puis ils vont regarder une Rio.
C'est ça.
Peut-être plus petit, puis des fois, ils vont un cosse plus petit.
Ouais. Exactement. Mm-hmm. Ce qui est un peu particulier parce que honnêtement, je ne m'attendais pas à ce genre de choses-là parce que la Kia Rio, ouais, ça demeure quand même un petit véhicule,
ouais,
qui dans le passé avait des défauts, notamment au niveau de la qualité de finition, notamment au niveau de la motorisation qui était bon, correct mais sans plus, et notamment au niveau de l'insonorisation parce qu'on avait vraiment l'impression de rouler en plein milieu de l'autoroute, les fenêtres baissées tout le temps.
Ouais, mais tu parles d'une catégorie de voiture que, là, pas si longtemps, la personne qui voulait s'acheter ça était pénalisée, là. T'avais pas le droit du QE, t'avais pas le droit du high-tech, t'avais presque deux chaises de parterre vissées après le plancher de la voiture, là, des chaises en plastique, puis c'est ah, va-t'en avec ça. T'sais. Ça a changé beaucoup là, dernièrement. Ça devient c'est un marché qui est très, très important maintenant.
Oui, effectivement. Et en fait, il y a de plus en plus de choix, tu l'as mentionné. Tu sais, je parlais de la Nissan Micra, par exemple, la Chevrolet Spark. C'est des voitures qui arrivent maintenant avec un certain équipement, avec une certaine... Tu sais, là, sont un peu plus haut de gamme qu'ils ne l'étaient.
Mm-hmm.
Quand on regarde la Rio, on arrive aussi dans ce monde-là. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est la qualité de finition et d'insonorisation de la nouvelle génération. On ne peut pas parler de la voiture sans parler de cet élément-là qui est vraiment, vraiment surprenant. Écoute, on roulait là, puis Dieu sait que j'étais, tu sais, je suis pas, comme je te dis, j'ai pas ma taille de jeune fille encore. Et j'étais avec probablement le seul journaliste qui est encore plus large que moi.
Okay, on n'en voit pas, par exemple, je pourrais être
un collègue ontarien.
Okay.
Et ensemble, on avait de la place à l'intérieur. On a roulé ensemble toute la journée, sans difficulté. Moi, j'ai repris la voiture à la fin de la journée. Je suis allé me promener en ville. Et honnêtement, t'as une belle sensation dans la voiture. T'as l'impression d'une certaine solidité. T'as l'impression d'une bonne insonorisation. Évidemment, ça demeure une Rio de 130 chevaux. Quand t'accélères, ben, t'aimerais ça des fois qu'elle pousse un petit peu plus. Mais bon, c'est pas fait pour ça. C'est pas le but. Ce qui est aussi particulier, et il faut en parler, c'est la qualité, je dirais, des accessoires de série.
Okay.
On se retrouve avec une voiture de base qui vaut 14 900 $ ou à peu près, mm-hmm. avec siège chauffant, volant chauffant.
De base?
De base.
Ah, c'est bien.
Caméra de recul, connectivité Bluetooth. Bref, on est vraiment dans un monde qui est, ma foi, plutôt intéressant de ce point de vue-là.
Ouais. Mais la caméra de recul de série,
il faut démasser
aux Américains, parce que
c'est ben, oui, mais c'est pas encore obligatoire, ça va l'être l'an prochain.
Ouais, c'est ça, ça va devenir obligatoire. Mais ça coûte rien maintenant. Une petite caméra, puis un petit écran, ça coûte rien. Ben oui.
Non, effectivement, mais quand même, c'est de série.
Okay.
Fait que ça, c'est intéressant. Alors, ceci étant dit, ça, c'est le fun pour 14 900 avec une boîte manuelle. Je le dis, que je n'ai pas encore essayé.
Okay.
La boîte manuelle, il y en avait une seule représentante sur place. J'ai pas eu l'occasion de mettre la main dessus. Alors ça, je l'ai pas essayé. Avec la boîte automatique, ben là, ça devient évidemment une petite voiture sous-compacte intéressante. Et vraiment, c'est agréable, c'est le fun, puis c'est une petite sous-compacte. Mais à 14 900 $ tu as la version de base. Ouais. Quand tu arrives avec la version la plus équipée, automatique, avec un système de navigation,
mm-hmm.
tu te retrouves à 25 000
$.
Ouais. Ça commence à être de l'argent pas mal.
Mais là, tu parles avec des sièges en cuir, vraiment trop ouvrant, sièges arrière, chauffant et tout ça,
j'imagine. Ouais, exactement. Mais n'empêche que tu es à 25 000 pareil.
Oh oui.
À 25 000 piastres, tu commences à avoir une Honda Civic qui a de l'allure un peu, là.
C'est ça un peu le problème, c'est que maintenant, le prix de la petite voiture d'entrée de gamme, quand tu apprends tout équipé, vient rechercher la voiture de milieu de gamme. Et c'est comme ça que le vendeur dans un dealer peut dire, bon, mais, ouais, mais si vous préféreriez pas avoir la Forte, peut-être un petit peu moins équipée, mais elle serait plus grosse et tout ça. Fait que là, on est capable de te vendre un modèle différent et, tu sais.
Exactement. C'est exactement ça.
Ouais.
Mais là, on parle vraiment de 25 000. Par contre, il faut leur donner qu'ils ont des éléments intéressants. Entre autres, ils ont installé un système télématique à l'intérieur, UVO, qui te donne accès, bon, avec une application et tout.
Mm-hmm.
T'es capable de déverrouiller à distance, démarrer à distance, avoir un... Bref, on a vraiment joué très, très large. On a joué la carte d'un véhicule qui est un petit peu plus dynamique en conduite. Mais regarde, on s'entend, là. C'est une Kia Rio, là. OK?
Non,
oui,
ça fait pas ça pour le dynamisme et faire de la course.
Non, c'est ça. Fait que tu t'en vas pas faire le circuit avec ça, c'est bien clair. Mais c'est une belle petite voiture et qui, dans sa forme actuelle, a quand même certaines velléités de pas être uniquement urbaine. C'est quand même agréable au niveau de la conduite sur autoroute parce qu'on le fait. Donc, je pense que c'est un bon choix de la part de Kia qui a bien ranimé cette voiture-là. Elle arrive avec la Rio 5. Dans quelques semaines, il y aura la version Berlin, effectivement.
Ouais.
Donc, on arrive bientôt. Là.
Mais la version Berlin n'a jamais eu le cachet que la Rio 5. Là. La version hatchback est toujours plus belle dans ces espèces de voitures-là. Là. Il y a toujours, la version hatchback est toujours, sort toujours du lot un peu. Visuellement, c'est toujours plus beau. La Rio 5, avec le coffre ordinaire, la berline, j'ai jamais trouvé vraiment belle. Mais la Rio 5, depuis quelques années, depuis deux ou trois générations, là, est quand même jolie.
Oui, effectivement. Oui, moi aussi, mais écoute, honnêtement, j'ai été agréablement surpris jusqu'à maintenant de cette Rio-là. Donc, pour moi, c'est un très bon point.
Super. Donc, Marc, là, tu vas passer de quelque chose que tu as conduit sur la route à quelque chose que tu as expérimenté dans un champ.
Oui, écoute, là, je t'avoue. J'avoue que ça, c'est complètement fou, OK? Je t'explique. Il existe dans la région de Saint-Hyacinthe, où je demeure, un événement annuel qui s'appelle l'Expo Champ.
Ouais.
L'Expo Champ, c'est de la réunion de tout ce que l'on peut retrouver comme machinerie agricole à vendre pour les producteurs de la région. Parce qu'on le sait, Saint-Hyacinthe, c'est une des capitales agroalimentaires du pays, donc c'est vraiment cool.
OK, fait que c'est pas genre une compétition pour la voix à Béléa.
Non. Okay, c'est bon. Champ, là, comme dans champ,
mais c'est parce que champ de fleurs. Quand t'es dans les autos, je me disais, bon, ça y est, Marc, je vais essayer d'avoir une carrière dans...
Non, mais j'ai pas été retenu dans les auditions de Star Academy.
Ah, okay.
En fait, oui, mais ils m'ont prêté le balai, pas le micro. En tout cas, c'est pas grave.
C'est bon.
Mais donc, j'ai un ami qui est directeur des communications de cet événement-là, qui me dit, Marc, je veux que tu viennes, je veux te faire essayer un tracteur qui est puissant. OK. N'écoutant que mon courage et mon envie d'essayer des affaires bizarres, je me suis garoché là et on m'a embarqué dans un tracteur de la marque Fendt. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une marque allemande. Ils sont aussi associés avec Challenger et Massey Ferguson. Donc, c'est une marque qui est assez connue. C'est assez spectaculaire. Et on m'a embarqué dans le tracteur non articulé le plus puissant au monde.
OK. Non articulé veut dire...
Ben, tu sais, t'as dû voir des tracteurs là, qui plient par le milieu, là, tu sais, les gros tracteurs qu'on voit des fois sur les fermes, là, qui sont comme, ils plient par le milieu. Okay. Ça, c'est parce que c'est des tracteurs qui ont des vocations particulières.
Okay.
Mais, on a ça. Imagine, je suis à l'Expo Champ, je suis entouré de tracteurs de producteurs agricoles et on me met au volant de cette affaire-là. C'est gigantesque.
Ouais.
Quand je dis gigantesque, là, je pèse mes mots. Je ne me rends pas en hauteur au sommet de la roue arrière avec ma tête. J'ai 7 marches à monter pour accéder à l'habitacle. Et quand tu arrives là-dedans, tu as un volant, tu as des pédales, bravo, jusque-là, c'est le fun. Et à droite, tu as le tableau de bord de Star Trek.
OK. T'as l'impression de piloter un avion.
C'est complètement fou. Tu as une espèce de manette comme un joystick avec des boutons, tu as des écrans, t'as toutes sortes d'affaires. Bref, ça, c'est assez compliqué. Il y a des tracteurs que tu peux entrer, tu vas mapper ton champ dans le GPS et c'est le tracteur lui-même qui va diriger comment il va aller se promener dans le champ. C'est complètement fou. Mais là, évidemment, je n'avais pas ça. Presque. Oui, avec le GPS.
Bon.
Et là, mais là, moi, je suis là-dedans. Et là, on me dit, écoute, pour accélérer, tu as deux choix. Tu peux utiliser la pédale puis le brake, mais c'est très loin, tu n'es pas très confortable. La vraie méthode, c'est plus avec le joystick.
Okay.
Fait que là, tu es assis dans un siège qui s'adapte à ton poids pour te garder à la hauteur maximale de façon automatique. Tu n'as pas d'ajustement à faire, ça se fait tout seul.
Okay.
Tu es assis là, et là, tu tiens le volant, et là, tu enclenches le joystick pour aller trouver la bonne vitesse à laquelle tu veux rouler.
Okay.
Et quand ça c'est fait, tu conduis avec le volant, qui évidemment est un volant gigantesque. C'est, tu auras compris, extrêmement maniable, ça vire sur un 10 cm. C'est monté sur des suspensions pneumatiques qui permettent de garder l'assiette du tracteur toujours droite, même en virage appuyé. Écoute, c'est l'équivalent d'une Audi R8, là, on s'entend. Là. C'est vraiment, ça se tient super stable. Ça a du couple, mon ami, à un niveau incroyable.
Ouais.
1770 livres-pieds de couple.
Ouais, faut que ça tire quelque chose en arrière, là, des fois. Ouais.
C'est capable de tirer, celui-là, là, il tire un réservoir de lisier de 70 000 livres.
Dans un champ, ça doit être quelque chose.
C'est incroyable.
Ouais.
Et pour reculer, t'as pas d'embrayage. Donc, tu prends juste ton joystick et tu le diriges vers toi. Et là, quand tu le ramènes vers toi, le tracteur ralentit et il recule quand il se met à reculer.
Okay.
C'est aussi simple que ça. Sous le capot, un moteur 6 cylindres en ligne, mais tiens-toi bien, 12,4 litres.
Okay.
Ça veut dire, là, pour les gens qui sont moins familiers, là, dites-vous qu'un moteur de Honda Civic, avec ses 4 cylindres au complet, fait 1,5 litres.
Oh, ouais.
Mon tracteur a un cylindre qui fait 2,1 litres. c'est des cylindres absolument gigantesques. Bref, c'est complètement débile. C'est impressionnant dans la façon dont ça se comporte. J'ai été extrêmement intimidé. J'avoue que je l'ai essayé sur un très petit circuit, mais j'ai pas eu l'occasion de le tester autant que je le voudrais. Là, je vais essayer de faire des beaux yeux à la compagnie pour aller l'essayer dans des conditions plus imposantes. J'ai vraiment trippé comme un enfant. Sauf que ce n'est pas la seule découverte que j'ai fait là, et j'étais vraiment impressionné de la façon dont ça s'est fait. Écoute, deux affaires très rapides. Les tuiles. Tuiles, c'est un pneu sans air que Michelin a dévoilé il y a quelques années au salon de Détroit. Ça s'applique plus ou moins aux voitures parce que c'est très raide, c'est pas confortable, ouais. Mais on l'a appliqué à des voitures pour aller dans le champ, des cartes de golf.
Okay.
Et c'est zéro crevaison, c'est super le fun. Et le deuxième, c'est un prototype qui était là, ce sont des pneus autogonflants. Alors, tu t'en vas dans le champ, tu es sur la route, tu as des pneus plus durs, tu arrives dans le champ pour avoir une meilleure grippe, tu baisses la pression de tes pneus, donc tes pneus vont mordre davantage dans la terre. Et quand tu reviens sur la route, tu appuies sur un bouton, les pneus se regonflent à leur niveau. C'est encore une initiative que Michelin a présentée là-bas. Honnêtement, là, l'année prochaine, je me suis déjà inscrit à l'Expo Champ. Je vais retourner voir ça. Il y a plein d'affaires à découvrir.
Non, mais super, tu nous en reparleras. Donc, Marc, on va faire une dernière pause puis on vient avec le bloc nouvelle. Alors, Marc, nous sommes de retour. Dernier bloc cette semaine, le bloc nouvelle. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine?
Mon Dieu, pas mal de choses, en fait, des choses qui sont beaucoup européennes, parce que, comme tu le sais, c'est le salon d'auto de Francfort qui commence en début de semaine prochaine. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles qui sortent de là, et beaucoup de manufacturiers en profitent pour lancer leurs événements d'avance ou faire tester des voitures d'avance. Alors, rapidement, Audi, par exemple, a amené un certain nombre de journalistes à Düsseldorf, en Allemagne, pour essayer la première voiture officiellement nommée niveau 3 en matière d'autonomie.
Okay.
Ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est que la voiture, l'intelligence Audi, arrive dans un trafic et elle est capable de se gérer toute seule dans le trafic. C'est la première fois, beaucoup d'autres ont mentionné que ça existait, mais tu l'as dit un peu plus tôt, il fallait toujours soit garder la vigilance, soit avoir les mains sur le volant. Mm-hmm. Or, dans un niveau 3, on est capable d'avoir un certain élément d'autonomie, donc on sera pas nécessairement obligé d'être toujours là. C'est un prototype. Pour le moment, on l'a essayé sur la A8, qui est pas encore en vente. Ça devrait pas tarder, cependant. Mais c'est donc le genre de voiture que l'on devrait voir bientôt chez Audi avec une conduite autonome de plus en plus performante. Et, il faut le dire, au-delà de celle de Tesla, qui se targue d'être niveau 3, mais qui a jamais été reconnue comme telle.
OK. Alors,
il faut le dire.
Ça doit être assez dispendieux parce qu'une A8, parce que ça, c'est pas donné en partant.
Non, on parle pas de l'auto d'entrée de base. C'est sûr. Parlant d'autonomie, est-ce que tu as envie de commander ta pizza à une voiture?
Ben, si c'est pour me l'amener sans problème chez nous, pas en retard, ça me dérange pas tellement.
Ben, en fait, c'est ce que Ford est en train d'essayer justement dans la région de Ann Arbor au Michigan. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils ont des voitures autonomes, des Ford Fusion autonomes. Tu sais, il y en a des tonnes là-bas. Et ils ont... En partenariat avec Domino's Pizza, ils font des livraisons dans un certain quartier de Ann Arbor. Donc, les gens appellent ou commandent une pizza par le biais d'une application intelligente. Ils reçoivent une confirmation sur leur application et ils peuvent suivre en temps réel la voiture qui vient leur livrer la pizza.
Allez.
Une fois que c'est fait, la voiture t'envoie un texto pour que tu sortes dehors et que tu ailles récupérer ta commande à l'intérieur d'une boîte chauffante. Donc, tu auras une pizza qui va être chaude et qui va arriver comme ça. Évidemment, pour le moment, le test se fait avec des gens à l'intérieur de la voiture parce que, bon, l'autonomie des voitures étant ce qu'elle est, c'est pas nécessairement aussi efficace qu'on aurait pu le croire. Mais c'est donc, à ce moment-là, la meilleure façon qu'on a trouvé pour tester des voitures autonomes de livraison. Ce qui fait que ça se pourrait bien qu'une Ford Fusion t'envoie un texto bientôt pour te dire que ta pizza est arrivée, mon ami. Ce qui est quand même une idée intéressante. En tout cas, c'est ce que je trouvais.
La beauté de commander une pizza, par exemple, c'est que le livreur vient t'apporter à ta porte. T'as pas besoin de sortir, tu peux être en pyjama, en jaquette, tu peux être en robe de chambre, puis avoir ta pizza là. Faut que tu sortes dehors. Il y a trois pizzas dans la boîte chauffante parce que t'as deux autres.
Non, pizzas. Chacune, attends, chacun a son code.
Okay,
okay. Ouais, chacun sa boîte, là. Non, à un moment donné, là, quand même, c'est un minimum, là.
Le char arrive chez vous, puis ta pizza est plus là parce que le gars d'avant a ramassé les deux pizzas.
T'sais, ouais, c'est ça. Mais là, c'est...
Ouais, OK. Bien pensé,
Patrick. Fait qu'on... On n'est pas là encore, mais bon, c'est un test. En fait, c'est justement, l'idée, c'est qu'ils veulent tester à la fois la qualité, la capacité de la voiture à faire la livraison, mais ils veulent aussi tester la capacité du consommateur à se rendre lui-même à la voiture et voir s'il va apprécier ou pas. Ce qui est loin d'être gagné, je te le dirais, parce que comme tu l'as mentionné, ça arrive des fois qu'on commande en robe de chambre. En tout cas.
Ouais.
Quoique ici, mes voisins sont habitués d'avoir de chambre. Parce que je dois expliquer que mon driveway est fait en longueur, pas en largeur. Okay. Ce qui fait que nos deux voitures sont une derrière l'autre. Et fréquemment, c'est moi qui arrive le dernier. Donc, le matin, je suis obligé de sortir et d'aller tasser ma voiture pour que ma femme s'en aille avant moi. Mais généralement, je suis pas nécessairement complètement habillé. Ce qui fait que la plupart de mes voisins savent de quoi j'ai l'air en robe de chambre. Mais bon.
Je suis content de pas rester à côté de chez vous, moi.
C'était un aparté. Ouais, mais elle est attachée d'habitude. En tout cas,
moi, c'est pas on va juste espérer qu'il n'y a pas de gros coup de vent.
C'est ça, exactement. Okay. Ou que je conduise pas un gros pick-up et que je sois obligé de monter à bord. En tout cas.
Ah, c'est bon. Il y a des gens qui viennent de finir de déjeuner là, qui vont écouter ça. Regarde, on va arrêter ça là. Pense à ta prochaine nouvelle, s'il te plaît.
Prochaine nouvelle, c'est Jaguar. Jaguar qui a annoncé qu'effectivement, à partir de 2020, tous les modèles Jaguar seraient électrifiés d'une quelconque façon. On le sait, Volvo avait déjà annoncé la même chose. Donc, Jaguar va faire la même chose à partir de 2020. Bien sûr, le prochain, c'est le I-Pace, le fameux utilitaire sport 100% électrique qui est prévu pour arriver en 2018 mm-hmm. avec une autonomie de 400 km. Mm-hmm. Je fais juste dire ça au passage. 2018, 400 km, Jaguar. En tout cas,
ouais, mais 100 000 $ C'est pas.
Oui, mais quand même.
C'est pas.
Non. Je vais juste dire que c'est possible. Ceci étant dit, non, c'était une blague, là. C'est pour m'amuser. Sauf que ce qu'ils ont fait entre-temps, c'est qu'ils ont sorti une Jaguar type E. La célèbre Jaguar type E, la plus belle, à mon avis, de celle qui a été faite chez Jaguar au fil des ans. Ils ont pris un modèle 1968. Et ils l'ont électrifié. En fait, ils l'ont recréé, bien entendu, et ils l'ont électrifié. Ils ont mis une batterie 40 kW, capable d'une puissance de 295 chevaux, ce qui n'est pas rien. Et, pour une raison que j'ignore, eux autres, avec cette puissance-là, sont capables d'avoir 270 km d'autonomie.
Ah, vraiment une question.
Effectivement. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont réussi à diminuer le poids par rapport à la type E originale de 46 kilos, ce qui est 110 livres,
ouais.
Mais surtout, ils ont tout allégé et ils sont à 5,5 secondes pour le 0-100.
C'est quand même...
Ce qui est tout à fait... Bien. Bon, ce qui est assez, je veux dire, c'est pas un char de course, là.
Non,
on s'entend. Sauf que c'est un petit peu dispendieux, tu vois.
Ah, ils vont là-bas?
Ben, en fait, tu peux la faire, là. C'est une conversion que tu peux faire.
Okay, okay.
Mais ça vaut à peu près 476 000 $ si t'as une type E. Fait que, on n'est pas exactement, c'est pas exactement dans mon budget cette semaine, je te dis.
Faut que tu fournisses la type E.
Ben, pour le moment, oui. Ben, en tout cas, il y en a d'autres qui sont, ils vont être à vendre dans certains cas, mais pas toutes. Donc, c'est un peu particulier, là. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.
Okay, donc, je pensais qu'à 400 000, il fournissait la type E.
Ben, c'est parce que des types E, il y en a plus bien. Puis acheter une type E actuellement, c'est un élément de collection, là. C'est un peu cher.
Ouais, puis scraper une type E pour la convertir, c'est un élément de collection. Ouais, vraiment, il y en a pas beaucoup sur les autres. C'est bon.
Non, effectivement. Autre détail, Mazda. Mazda qui m'a envoyé cette semaine une paire de bas.
Ouais.
Vertes et oranges.
J'ai regardé dans ma boîte aux lettres où j'avais pas de bas.
Je suis désolé. À la couleur de l'ancienne 787B. C'est quoi la 787B? Ben, c'est tout simplement le premier véhicule qui a hérité d'un moteur rotatif. Il y a 50 ans cette année. Donc, on a voulu célébrer ça en nous envoyant des bas. Bon, l'idée est bonne, là, mais un peu originale. Sauf que la vraie célébration, elle est ailleurs. C'est qu'ils en ont profité pour confirmer. C'est pas vrai. C'est pas confirmé. C'est des sources proches de Mazda qui ont confirmé qu'ils travaillaient actuellement sur une nouvelle génération de moteurs rotatifs pour une voiture sportive.
Ouais.
Évidemment, tout le monde attend la RX9 avec un certain enthousiasme, pour ne pas dire une certaine impatience.
Ouais.
C'est pas encore arrivé, mais on devrait donc l'obtenir bientôt, en tout cas, souhaitons-le. C'est donc là qu'on en est pour le moment. Mazda dit oui, il va en avoir une. mais éventuellement. Et il semble que, au contraire, ça soit plus qu'éventuellement. C'est vraiment, pour le moment, là, on est là-dedans tout à fait. Donc, je pense que c'est une excellente nouvelle pour les amateurs de conduite un peu, je dirais, un peu plus dynamique.
Ouais, mais on n'envoie pas des bas pour célébrer quelque chose à des journalistes si on voudrait essayer de peut-être faire oublier le fait que ça a déjà existé parce qu'on pense plus en faire.
Ouais, non, effectivement.
Tactique marketing.
Effectivement, effectivement. Et là, rapidement et un peu en rafale, là, on va parler un petit peu de ce qui se passe à Francfort. La semaine prochaine, BMW l'avait annoncé quand on était à Montréal. Donc, il nous disait que il y avait 25 nouveaux véhicules électriques qui s'en venaient. Il y aura la Mini électrique qui va être présentée à Francfort la semaine prochaine. Il y a Kia qui va présenter la nouvelle Ceed. Qui est une version un peu familiale de la Kia Ceed qu'on n'a pas chez nous, mais qui est magnifique. J'espère qu'on va l'avoir. Il y a Mercedes qui va présenter sa super voiture qui, dit-on, est une concurrente à la Bugatti, rien de moins. Mm-hmm. Donc, qui est une Formule 1 pour la route. Donc, ça devrait être très bien. Il y a Honda qui est supposé présenter un CRV, ben le CRV hybride qu'ils ont déjà présenté à Shanghai. Bref, le salon de Francfort la semaine prochaine, ça va être extrêmement occupé. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler, mon cher, mais là, c'est tout le temps qu'on a pour cette semaine.
En plein ça. Donc, Marc, si les gens veulent te rejoindre et te dire que t'as pas raison sur les voitures électriques et tout ça, comment font-ils cela?
Ben écoute, ils peuvent venir sur mon blog marcbouchard.ca et vous rendre compte que je suis pas si méchant que ça. Et évidemment, ils peuvent me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont sur mon blog, mais vous pouvez aller à la page, bien sûr, à Marc Bouchard sur Facebook, Bouchard souligné Marc sur Instagram et Marc souligné Bouchard sur Twitter. C'est la méthode la plus facile et j'essaie de répondre, ainsi qu'à notre célèbre adresse que j'ai encore oublié, Luc.
C'est info@saroulradio.com.
Tu vois, alors info@saroulradio.com, c'est une adresse à laquelle on reçoit les courriels Luc et moi et auxquels on essaie de répondre le plus rapidement possible. Non, et toi, mon cher, on te rejoint comment?
Ben moi, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à Scalazormo. Je gère aussi le compte Twitter de Saroul Radio qui est à Saroul Radio. On a aussi la page Facebook Saroul Radio comme Marc dit. Sur Facebook, on essaie de répondre aussi rapidement. Des fois, c'est plus facile parce que Facebook, on a accès à peu près partout. Des fois, des courriels, mais si on est en dehors du bureau, c'est pas toujours simple, mais Facebook, c'est assez rapide. Et puis, c'est ça, on est disponible sur iTunes, on est aussi disponible sur Google Play. Vous pouvez nous écouter sur des radios web, on a Radio H2O, on a sportradio.ca, et à partir de cette semaine, et je dis bonjour aux nouveaux auditeurs, on est sur Radio Média Plus aussi. Donc, qui est une nouvelle radio web qui débute, et on a la joie, le plaisir et l'honneur de faire partie de sa nouvelle programmation. Donc, vous allez pouvoir nous écouter là. Je crois que c'est le vendredi à 20h.
Exactement, c'est le vendredi à 20h. Alors oui, très heureux de faire partie de ce nouveau projet-là. On espère que ça va être extrêmement populaire et que les gens vont apprécier et vont nous écrire abondamment sur Radio Média Plus.
C'est en plein ça. Donc, Marc, merci encore une fois d'avoir fait cette émission avec moi cette semaine. Merci à tous nos auditeurs, peu importe sur quelle plateforme vous nous écoutez. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde.